9h sur Inter. Revoici les infos. Anaïs Fega.
Pas encore de bilan des dégâts de la tempête Niels. Elle souffle sur une large partie ouest de la France. Les Pyrénées-Atlantiques viennent de rejoindre l'Aude en vigilance rouge au vent. Des rafales relevées à plus de 100 km par heure aussi dans les Landes ou en Dordogne. Et en parallèle du vent, les inondations, risques importants du Finistère à l'Hérault, alerte maximale en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Débordement très important prévu sur la Garonne entre Langon et Agen. Mélodie Pépin, il y a des centaines de milliers d'habitants sans électricité et déjà un mort.
Un chauffeur poids lourd près de Dax, une branche est tombée sur son camion. La tempête Niels, qui a aussi fait plusieurs blessés, dont un grave dans l'Hérault, là encore, une chute d'arbre sur son véhicule, car le vent, plus les sols gorgés d'eau, eh bien ça facilite les déracinements. Le conseil, c'est de ne pas prendre la route, mais certains bravent le danger. La tempête Niels, qui couche aussi les poteaux électriques et arrache les lignes, on compte 850 000 foyers privés de courant ce matin. On surveille de près aussi les cours d'eau qui débordent de leurs lits par endroit, et les pics de crue ne sont pas atteints. Il va continuer de pleuvoir les prochains jours. Par précaution, un EHPAD a été évacué en Charente. Aujourd'hui, les écoles sont fermées dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. De nombreux trains supprimés dans tout le sud-ouest. Et en Savoie, ce sont des avalanches de grande ampleur qui sont redoutées. Département en rouge, fait rare, risque maximal 5 sur 5. Pas de ski donc pour les vacanciers. La station La Plagne est fermée et une partie des domaines de Chamonix et Courchevel.
Et puis au Portugal, la rupture partielle d'une digue hier a entraîné près de Coimbra l'effondrement d'un viaduc de l'autoroute qui va de Lisbonne à Porto. Le tronçon d'autoroute était fermé à la circulation. En deux jours, il est tombé sur le Portugal. Un cinquième des précipitations pour une année entière. La péninsule ibérique en première ligne du dérèglement climatique en Europe. Et pour lutter contre ce dérèglement, il faut bannir les énergies fossiles, utiliser l'électricité. Le gouvernement veut relancer la consommation électrique en France. C'est l'objet de la présentation aujourd'hui de la programmation pluriannuelle de l'énergie, en rupture avec la précédente, puisqu'elle prévoit une relance du nucléaire et de l'éolien en mer. En revanche, objectif en baisse pour l'éolien terrestre et le solaire. Ils partent ce matin de Charente, direction Caen. Une trentaine de salariés de la papeterie Leca à Nersac se rendent au tribunal normand qui doit statuer sur l'avenir de leur entreprise. Eux qui, l'an dernier encore, confectionnaient les agendas Oxford. Il y a un an, ils apprenaient que leur usine allait fermer, délocalisation en Turquie. Mais l'ex-employeur qui avait négocié le plan social annonçait aussi être en cessation de paiement et ne pas pouvoir les indemniser. La justice soupçonne des licenciements abusifs, une enquête est en cours. Mais en attendant, Maxime Deps, les salariés, eux, ne touchent pas d'argent.
Cette histoire, s'ils ne la vivaient pas, Fabrice Lelièvre ne la croirait pas.
France Travail, c'est inédit, ils n'ont jamais vu ça.
Lui qui fait partie de ces salariés lésés, vivant sans rien depuis juin.
Pas de France Travail, pas de RSA, aucune source de revenus.
Car officiellement, le temps d'éclaircir la situation, l'entreprise n'a pas été liquidée. Or, sans prononcé du tribunal, pas de papier non plus délivré aux salariés pour toucher des indemnités.
Moi le premier, enfin, j'accumule des loyers dus depuis le mois de juin. Et j'ai des collègues, leurs bailleurs, les menaces d'expulsion depuis 3 mois.
Au total, ils sont 53 ex-salariés à vivre aujourd'hui sur leurs économies ou grâce au soutien de leur entourage.
Et s'il n'y avait que ça.
Ralph Blindauer, l'avocat des salariés, qui s'étonne que dans le même temps, le stock de machines de leur usine a été vendu.
On sait même combien il a été vendu, 900 000 euros. Donc il y avait largement de quoi financer ce plan social. Sauf que tout cet argent-là a disparu.
Il n'a pas disparu, il a fallu payer des fournisseurs, assure la partie adverse. Argument qui ne tient pas dans l'autre camp.
Le groupe spécule sur le fait que la liquidation judiciaire va être confirmée et que finalement c'est le contribuable qui va payer par l'intermédiaire de l'assurance chômage. Et donc là, ça commence à devenir ubuesque.
Les salariés qui renvoient la responsabilité de cette situation au groupe Amelin, groupe leader de papeterie, et qui les a filialisés il y a 5 ans, c'est à eux de payer au tribunal de statuer.
Explication Maxime Deps. Beaucoup de questions au Canada après la tuerie d'hier. 8 morts dans une fusillade dans un petit village. La police cherche à comprendre les motivations de cette jeune femme transgenre de 18 ans qui a ouvert le feu dans un collège-lycée, tuant 5 enfants de 12 et 13 ans, mais aussi sa mère et son frère. Et puis une quinzaine de maisons palestiniennes détruites en Cisjordanie, près de Jéricho, par des dizaines de colons israéliens armés, masqués et, selon les témoins palestiniens, accompagnés d'un bulldozer près d'un véhicule de l'armée. Ce matin, la Chine se dit opposée à toute tentative d'annexion de territoire palestinien. Enfin, un compte à rebours pour Ariane 6. La fusée européenne, dans sa version la plus puissante, décolle en fin de journée pour emporter 32 satellites pour la constellation d'Amazon, concurrente directe de Starlink. Dotée pour la première fois de 4 propulseurs et d'une coiffe allongée pour lui permettre d'emporter plus de poids. Un véritable défi technique aussi pour déployer toutes ces dizaines de satellites.
C'était le journal d'Anaïs Feuga. Merci Anaïs.
Cette guerre n'est pas une guerre ordinaire. C'est la guerre du peuple russe tout entier.
Quelle est la vraie histoire de la grande guerre patriotique de Staline ?
France Inter, 14h50, Stéphanie Duncan.
Alors qu'en Russie, un seul récit de la Seconde Guerre mondiale est autorisé par le Kremlin, comment cette page capitale du XXe siècle a-t-elle été vraiment vécue par le peuple russe ? Je reçois l'historien Nicolas Werth.
Le fil de l'histoire,
c'est tous les jours à 14h50 sur France Inter.
France Inter, 9h06. Soyez les bienvenus dans le mag de la grande matinale. On a une heure devant nous pour danser, pour ferrailler, pour piquer, pour s'emballer. Charline Vanhoenacker, figurez-vous, va se mêler des prochains JO d'hiver encore en chantier. Daphné Burki nous présentera l'actrice soudanaise qui joue dans le nouveau film d'Alice Vinocourt. Et puis le débat du jour à 9h30 posera cette question brûlante. Est-ce que la France insoumise est un parti d'extrême gauche ? Le ministère de l'Intérieur la classe ainsi. Jean-Luc Mélenchon réfute ce terme d'extrême gauche avec force. Des éditorialistes de Libération et du Figaro en discuteront tout à l'heure, mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Vous avez entendu à ce micro Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature, raconter que son identité est nomade, qu'elle se forge dans le mouvement et dans les voyages. Ça va assez bien à Mika, née au Liban pendant la guerre, réfugiée à Paris, exilée à Londres, domiciliée aux États-Unis, adoptée en Italie. Il a vendu des millions d'albums. Dans le précédent, il a dit en français « Le deuil de sa mère adorée, le chagrin, la peur de la mort ». Le nouveau s'intitule « Hyper Love » et il danse très fort. Comme si, après les larmes, il y avait un amour plus intense, plus âpre, plus lucide aussi sur le monde qui nous entoure. Mika se cachait dans les théâtres depuis tout petit. Alors, est-ce que ça y est ? Est-ce que Mika a grandi ? Portrait numéro 89.
Bonjour
et bienvenue sur France Inter.
Merci beaucoup.
L'album s'appelle Hyper Love et aussi vous êtes président d'honneur des Victoires de la Musique vendredi soir à suivre en direct sur France Inter et aussi sur France 2. Pour composer Hyper Love, vous avez pris une décision radicale, un retour au piano. Ça s'entend pas.
Ça s'entend pas, mais c'est entièrement tout est écrit entièrement au piano. Parce que, en fait, je savais que je voulais faire un truc qui était très produit. Mais la recette devait être pure. Parce que si la recette, elle est pure, si l'intention, au début, est pure, l'âme de la chanson, du geste original, eh ben, il reste.
Moi, je voudrais que vous me racontiez ce piano. Le piano. Celui qui vous suit depuis très longtemps.
C'est un piano blanc. J'ai commencé avec... c'était un piano marron qui était en location dans l'appartement à Paris quand on était arrivé du Liban. Avec des meubles qui sont venus un petit peu du brick et du brac, un petit peu de partout. Beaucoup de meubles du Liban, faits avec en osier. Mm-hmm. Et donc, rien n'allait vraiment. Et dans cet appartement à Paris, avec des couleurs partout, ma mère nous donnait toujours des petits seaux de peinture. Et on était toujours en train de peindre les meubles, les tables, avec de la peinture blanche. Sauf ce piano marron, car le piano ne nous appartenait pas. Bref, il s'est passé beaucoup de choses avec mon père. On a eu des périodes pas très stables. On a dû partir, on a perdu beaucoup de nos choses. La danse des huissiers.
Des huissiers.
Des huissiers. La danse des huissiers. Comment gérer des huissiers? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'écouter, qui savent exactement ce que je suis en train de dire. Quoi dire? Comment les arrêter? Il y a certaines choses qu'on peut dire pour les arrêter de rentrer dans la maison, surtout quand on est seulement des enfants à la maison. En tous les cas.
Des huissiers qui rentrent et qui prennent.
Qui prennent.
Et qui repartent
mais
avec les meubles.
Mais ils n'ont pas pris les meubles blancs parce qu'ils étaient, ils avaient aucune valeur. Comme les meubles n'étaient pas en blanc.
Parce qu'ils étaient peinturlurés.
Exactement. Ils étaient gâchés. Et dans cet appartement blanc, sur du blanc, sur du blanc, il y avait de la couleur. La couleur, c'était la musique. Et c'était les tissus qui étaient partout, les tissus de l'atelier de ma mère, les tissus
c'était
sur
les couturières.
Exactement. Et le piano marron. Ils n'ont pas pris le piano marron parce que le piano était en location. Quand on est parti assez vite de la France...
Pour
aller en Angleterre et recommencer avec la famille, on a appelé pour rendre le piano et la boîte avait fait faillite. Ce qui veut dire que le piano marron est venu avec nous. Quand finalement, il est revenu avec nous, avec les meubles blancs, il arrive dans la maison à Londres, et ma mère me donne un seau de peinture, et je le peins en blanc. Jusqu'à aujourd'hui, ce piano blanc, on voit...
Vous l'avez peint vous-même?
Je l'ai peint. Et j'étais jeune, hein, j'avais 8-9 ans. Il est resté avec cette même touche de peinture, je ne l'ai jamais repeint. On voit le marron en dessous, ça représente pour moi ma vie, ma musique, la manière que j'ai écrite. Et c'est sur ce piano que j'ai écrit 90% de tout mon matériel.
C'est une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, un piano, quand on a un piano dans une famille, dans une maison, quand on a grandi avec un piano, c'est beaucoup plus qu'un instrument.
Absolument.
C'est un bloc de souvenirs.
C'est un bloc de souvenirs. C'est l'instrument le plus démocratique de la planète parce qu'on touche et ça fait du son. Ce qui veut dire que peu importe ta capacité technique, tu peux créer. C'est un instrument de création.
C'est la voix de Barbara.
Moi, j'aurais aimé apprendre le piano. J'aurais dû apprendre le piano. Et j'aurais adoré ça. Je me demande même si je n'ai pas chanté parce que je ne savais pas jouer de piano. Finalement, c'est peut-être ça. Mais moi, j'aurais adoré ça, mais je suis nulle. Enfin, je veux dire, il y a seulement 3-4 ans que je sais lire les notes.
J'avais coupé le micro. Pendant que Barbara disait « J'ai chanté parce que je ne savais pas lire les notes ».
C'est exactement ça.
Voilà. Mika s'est écrié « C'est ça !»
Mais
voilà,
c'est ça. La seule raison pour laquelle... parce que moi, je ne sais pas lire les notes. Et donc, je cherche des mélodies, je cherche à chanter d'une manière pour compenser la simplicité de mon piano.
Barbara, encore.
Tout artiste a tellement besoin d'être aimé.
Vous avez besoin de cela aussi.
Bien sûr, parce que sinon, je chanterais chez moi, dans ma salle de bain. Je veux dire, chanter sur scène, c'est quand même quelque part... monter sur scène, c'est une amputation, c'est un exhibitionnisme dont j'ai très conscience. Et c'est peut-être là, justement, qu'il y a une espèce de lutte dont vous parlez. Pourquoi la solitude? Et après, j'ai honte. Peut-être qu'il y a une honte d'avoir eu besoin de s'exprimer sous les lumières, en habit de lumière. Parce que le noir, c'est une lumière sublime. Mmh. Vous le savez bien.
Voilà, c'est une femme qui avait tout compris. Tout compris sur elle-même, et qui avait tout mis aussi, le beau, la lucidité.
Il y a
de
une
laquelle,
part d'exhibitionnisme,
ouais.
À
oui,
être
bien sûr.
Tous les soirs sur scène.
Mais bien sûr, mais on aime ça.
Et après on a honte.
Mais bien sûr, après on a honte. Mais on n'a pas honte dans sa loge. Hein. La honte, ça arrive comme la tristesse, dans les moments les plus improbables. Comme cette sensation de la solitude, tout d'un coup. Tu ne sais pas d'où ça vient, et ça arrive. Et c'est la honte, c'est pas la tristesse, c'est la honte. On peut confondre les deux. Mais c'est ça. Hein. Et c'est quand Barbara est en train de dire « Je l'ai trouvée devant ma porte, un jour, quand je rentrais chez moi, partout, elle me fait escorte. » Elle parle de cette honte. La chanson, on dit solitude, mais vraiment, c'est ce qui se passe et ce qu'on ressent dans la solitude. Et quand on commence jeune, eh ben ça s'en va pas, il faut l'adresser.
Et vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai lu quelque chose de très étonnant sur vous. Peut-être que ce n'est pas vrai. Vous collectionnez les maquettes de théâtre?
Oui. Ouais, j'en collectionne, mais j'en fabrique aussi.
C'est vrai?
Ouais, il y en a une que je suis en train de faire maintenant depuis 6 ans.
Valérie Lemercier, elle était à ce micro. Et elle dit, pour moi, un théâtre, c'est rentrer dans le ventre de ma mère.
Oh.
C'est le refuge ultime.
Et c'est ça.
C'est ça pour vous aussi?
Ouais, je me souviens de la première fois que je suis rentré dans un théâtre, j'avais 8 ans. Et il n'y avait pas de fenêtre.
Mmh.
Et c'était ça le refuge. Un bâtiment avec des grands, avec des pros, avec des gens sérieux qui créaient de la fantaisie dans un sorte de bâtiment qui était en communauté, ensemble, pour créer de la magie qui parlait de la vie, mais c'était pas la vie. Mais ça nous aidait je comprenais tout de suite que ça t'aide à comprendre la vie. Tu parles de la vie, mais c'est pas la vie. C'est une danse sublime.
Sauf que la vraie question, c'est exactement ce que vous venez de dire, Mika. C'est que la honte et la solitude, c'est jamais dans la loge. C'est jamais sur scène.
Non.
C'est quand on sort du théâtre.
C'est quand tu sors du théâtre. Leave your heart and your pain at the door. Tell me what you're crying for. Tell me what you suffer for. You may be strong, but the strongest of hearts needs a little break sometimes. Leave your problems at the door. Tell me what you're waiting for. Tell me why you're waiting.
Take your problem with you. C'est un autre extrait sublime. Elle est très très belle, cette chanson de l'album Hyper Love. Qu'est-ce que ça signifie, prendre tes problèmes avec toi?
C'est vraiment une chanson d'amour en train de dire, moi je peux pas t'aider à échapper des problèmes. On les amène avec nous. Et on les amène et on les porte, mais de temps en temps, on les accroche avec nos manteaux à la porte d'entrée de la pièce. Et ça va. Mais c'est obligé. Pour toi autant que pour
chanson
moi.
Chanson que vous adressez à votre sœur.
À ma sœur, à ma grande sœur, qui s'appelle Yasmine. Elle était en train de traverser une période et je voyais qu'elle perdait sa personnalité, sa lumière, son amour, sa tolérance, dans une sorte de rage ou de tristesse par rapport à la situation dans laquelle elle se retrouvait. Je dis, mais tu te perds et la rage et la peur gagnent. Comment tu peux faire les deux? Eh ben voilà la solution, peut-être.
Est-ce que c'est pas aussi, au fond, des mots qui racontent l'histoire de toute une famille qui emporte ses problèmes avec elle?
Une troupe qui
quitte le Liban avec ses problèmes.
Absolument.
Qui arrive à Paris avec ses problèmes.
Comme beaucoup de familles.
Qui quitte le Paris pour aller à Londres avec ses problèmes.
Ouais.
Et vous qui quittez Londres pour la Floride avec vos problèmes, and so.
Et on amène des trucs avec nous. Et c'est ce voyage, en fait. C'est ce voyage qui fait partie. Je pense qu'il y a tellement de gens qui ont exactement la même situation. De la joie improbable et chaotique.
On parlait du théâtre comme l'ultime refuge. Et en même temps, un refuge artificiel,
forcément. Mais les maquettes, c'est une vraie obsession. Je suis en train de recréer l'Opéra Royal de Londres. C'est beau.
C'est Alice au Pays des Merveilles.
Mais c'est un jouet. It's a toy. Mm. C'est un jouet.
Mm. Pas que.
Mais oui, mais c'est un jouet. C'est un jouet splendide.
Est-ce qu'il a grandi? Oui, il a grandi. Il a grandi.
C'est très sérieux.
Il prend l'opéra de Londres, il le fait en tout petit et comme ça, il l'a pour lui.
Exactement.
Et lui, il est très grand. Non, mais si, c'est Alice au Pays des Merveilles.
Et je mets ma tête dedans.
C'est-à-dire que, comme vous êtes tout petit dans un immense théâtre, ou comme d'un seul coup, l'immense théâtre devient tout petit,
oui.
Et c'est vous qui êtes immense.
Mais la puissance des miniatures.
Bon, donc on parlait de refuge. Je me suis quand même demandé, vous qui êtes un citoyen du monde, si vous qui êtes domicilié en Floride, par exemple, qui avez été domicilié en Floride pendant très longtemps. Et là,
c'est vrai, ça fait très longtemps, parce que ouais. J'ai commencé là-bas. J'ai un passeport américain.
Et en fait, je me suis posé cette question. Est-ce que parfois, vous vous dites, ce Liban que vous avez quitté, qui a vu la guerre lui revenir dessus de plein fouet, cette Amérique qui vous a servi de refuge, qui voit le Trumpisme et les barrières se fermer, les frontières se cadenasser. Je me suis demandé si parfois vous avez l'impression que l'horizon se bouche et si parfois vous vous dites peut-être qu'à un moment je ne trouverai plus de refuge.
C'est plutôt une question émotionnelle. Où aller en ce moment? Où est-ce qu'on sent cette liberté d'esprit, cette liberté d'expression? Quand on voit même les droits LGBTQ et comment on est allé presque 20 ans en arrière aux États-Unis, c'est hallucinant. Mais même en Italie, j'aime l'Italie, hein. Mais attention, même dans les droits LGBTQ+, ils sont allés vraiment en arrière et personne n'en parle parce qu'ils ont peur. Et on a peur de parler de la liberté qui est en train d'être érodée. Mais comment ça se fait? Je comprends pas. Bon, ça se passe un petit peu partout. Heureusement que là, on est à l'antenne, on peut parler de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment peur aux États-Unis de parler de ça. C'est du concret, ça. C'est pas hyperbolique, c'est pas peut-être. ou une exagération à la libanaise. C'est du vrai, ça.
Une exagération à la libanaise.
Ouais. Non, mais je peux rien répondre. Je dois adresser le fait de l'exagération à la libanaise. Je parle de mes tantes, ouais, et de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère et mes tantes, c'était toujours... Si c'était quelqu'un, il est allé... il est allé à l'université. Ma grand-mère disait, il est allé 3 fois à l'université.
Vous avez des souvenirs du Liban d'avant de partir, ou au fond vous avez grandi dans une forme de, comment dire,
une
mythologie.
Bulle. Ouais, c'est une mythologie en suspension.
C'est-à-dire ?
L'idée du Liban, elle est aussi formée par le fait que on a grandi dans une sorte de bulle, beaucoup de Libanais qui étaient à Paris. Et ça parlait le Liban, ça parlait l'arabe. Il y avait des sourires, des larmes, il y avait la bouffe libanaise, il y avait une sorte de majlès où tout le monde se retrouvait et parlait, discutait de temps en temps. Il parlait de la mort, de temps en temps, il parlait de la joie, il parlait du manque. Et je sais pas, il y avait toute une lumière différente qui est associée avec cette partie de ma vie. Cette lumière de lointain dans une ville qui était totalement normale dehors, mais dedans, ça parlait d'une autre vie.
C'est une sorte de Liban hors les murs.
Exactement.
C'est ça, dans lequel vous avez grandi. C'est le pays de votre mère, qui est morte maintenant, mm-hmm, il y a 5 ou 6 ans.
Oui, il y a 5 ans. Ouais.
Il y a 5 ans, voilà. Est-ce qu'avec elle, c'est un morceau de Liban qui s'est effacé? Ou est-ce que c'est l'inverse, en réalité? Parce que c'est le pays maternel, ne s'effacera jamais.
Oui, mais quand même, je ne veux pas être victime de mes propres cliché que j'ai formé dans ma tête de ce pays. Je veux comprendre et former mon propre lien. Je ne veux pas parler d'un pays, d'une idée d'un pays, sans former vraiment une opinion moi-même. Il y a un voyage que je veux faire. Je veux partir de Damas à pied et marcher, faire un sorte de voyage et de l'écrire ou de le filmer d'une manière ou une autre, un voyage à pied de Damas à Beyrouth. Je veux faire ce voyage. Pour moi, ça représente quelque chose de splendide. Cette idée d'arriver à Mount Lebanon, au Mont Liban, et de voir la mer, de voir la Méditerranée. Et de commencer à Damas et de traverser de cette manière la vallée du Bekaa, les oliviers qui ont 3500 ans ou 2500 ans.
Vous refaites un chemin biblique, non ?
Il y a une partie biblique, mais c'est même pas ça, c'est un chemin humain. C'est profondamment humain, cette route. C'est pas aussi long que ça, hein. Mais si on fait tous les détours, c'est long. Mais je veux former, je veux pas juste y aller et chanter. Chanter à Baalbek, c'est splendide.
Vous avez donné un concert fameux à Baalbek.
Fameux, je sais pas, mais j'en ai fait plusieurs, mais c'est splendide chanter à Baalbek. Et dans tous ces contrastes, hein, je me souviens, j'étais à Baalbek et on était en train de chanter Big Girl.
Baalbek, c'est un site archéologique absolument extraordinaire.
Extrêmement préservé. Enfin,
que j'ai jamais vu, mais...
C'était aussi un grand centre de Hezbollah pendant beaucoup d'années.
Du Hezbollah, ouais.
Et c'était un endroit où moi je suis allé quand j'étais petit pour voir des concerts. Je me souviens, j'ai vu Sting là-bas, Fairuz a chanté là-bas, Sinatra a chanté là-bas, Nina Simone a chanté là-bas, Streisand a chanté là-bas, je pense. Mais vraiment, Domingo... Je pense peut-être même Pavarotti a chanté là-bas. Mais tout le monde a chanté là-bas. Et moi, je chantais Big Girl. Je chantais Big Girl, you are beautiful. Il y avait un call to prayer.
Un appel à la prière.
Je l'ai entendu, on a attendu, et on a repris après. Big Girl et un appel à la prière. Même dans ça, dans ce contraste, il y a une forte poésie.
Quand vous aurez... gravi les échelons du Mont Liban, quand vous serez arrivé de Damas à pied, vous viendrez sur France Inter, vous viendrez nous raconter.
Vous serez arrivé
je pense à Beyrouth,
les marches à pied
avec votre bâton de pèlerin.
Exactement.
Ouais, vous viendrez nous raconter.
Absolument, avec grand plaisir.
Merci, ouais. Mika.
Merci.
Merci. Et à bientôt.
Et désolé à mes tantes libanaises, hein, elles vont me tuer.
L'exagération, la libanaise.
Alors, non.
Bah, je pense pas qu'elles vous tuent. C'est vous le Libanais sur ce coup-là. Merci, Mika.
C'est vrai.
Et à vendredi soir pour les victoires.
Ah ouais. I want to break free. I want to break free.
I want to break free. Toutes les journées devraient commencer par un tube de Queen. On était en 1984 et là vous êtes en 2026. Vous êtes dans le magazine de la grande matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Vous savez qu'il y aura aussi des JO d'hiver en 2030.
Oui.
Un remaniement est prévu dans le comité d'organisation qui venait d'être nommé il y a quelques mois. Pas de doute, ces JO auront lieu en France.
Ah bah oui, et ça va très bien se passer. Voilà, Daphné va nous rejoindre avec la jeune actrice qui illumine de son talent le film Couture. Ce sera tout à l'heure, mais tout de suite, il est 9h28. Vous êtes sur France Inter et c'est le débat du jour.
Il paraît que le ministre de l'Intérieur a décidé de nous classer extrême-gauche. Alors, extrême-gauche. Et si nous sommes classés extrême-gauche, d'après vos appréciations au ressenti, pourquoi ne classez-vous pas le PS extrême-centre ?
Voilà, Jean-Luc Mélenchon sur la scène d'un meeting. Le ministère de l'Intérieur classe donc la France insoumise à l'extrême-gauche de la classe politique. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un trucage digne, je le cite, d'une république bananière. Le mouvement dépose d'ailleurs un recours devant le Conseil d'État. Ce nouvel étiquetage politique de LFI est-il justifié ? Faut-il y voir un rééquilibrage par rapport au RN ? Classez-lui, je le rappelle, à l'extrême-droite.
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Alors, la France insoumise, parti d'extrême-gauche, oui ou non ? Guillaume Roquette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Thomas Legrand, bonjour.
Bonjour Sonia.
Éditorialiste politique à Libération, un de vos éditos, Thomas, vient d'en parler tout juste il y a quelques jours. Il a été...
Oui, je sais pas, il y a 2-3 jours.
Il y a 2-3 jours, c'est ça. On va en reparler ensemble. Et je vous invite aussi à réécouter ce débat qui a eu lieu le 15 janvier à ce micro, parce que nous avons donc débattu avec Dove Alphon, le patron de Libération, et Charles Sapin du Point, du terme extrême droite. Était-il justifié ou non de classer le Rassemblement National à l'extrême droite ? Comme ça, vous aurez les deux versions de ces deux débats. La France insoumise doit-elle être classée à l'extrême gauche ? Thomas Legrand.
Ben, ça dépend de quel point de vue on se place. D'abord, je ne pense pas que ça soit au pouvoir politique, ou, enfin, il peut toujours le faire, mais je pense que les commentateurs, comme Guillaume et moi, ou les citoyens qui discutent politique au bistrot ou à la cafette, ou les professeurs de droit, les politistes, les historiens, doivent se déterminer sans se soucier de ce que dit le pouvoir politique là-dessus. C'est quelque chose d'abord de subjectif. Il y a deux façons de voir.
Je demande juste à Guillaume Roquette ce qu'il en pense. Vous pensez la même chose que Thomas Legrand ?
Je suis parfaitement d'accord. Je dirais même ça dans des termes un peu moins consensuels. Je pense que c'est scandaleux. De quel droit est-ce que
le ministère de l'Intérieur étiquette ?
De quel droit est-ce que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur disqualifient ? Parce que personne ne veut être traité d'extrémiste. De quel droit est-ce qu'il stigmatise, comme on dirait chez les sociologues de gauche ?
Même le Conseil d'État d'ailleurs.
Oui, absolument. De quel droit est-ce qu'ils insultent des partis pour lesquels vote à peu près la moitié des Français. Moi, j'ai fait une petite recherche hier.
Donc ça commence direct, c'est-à-dire que pour vous, être classé à l'extrême, c'est être insulté.
Oui, absolument. En tout cas, moi, je n'aimerais pas.
C'est négatif.
Je n'aimerais pas être traité d'extrémiste. J'ai fait une petite recherche hier. J'ai trouvé aucun autre pays européen où on fait ce genre de classement. On dit qu'il faut faire des économies dans la sphère publique. Ben voilà, peut-être quelques postes de fonctionnaires qu'on pourrait supprimer.
Très bien. Bon, ça.
Faudrait que ça soit à plein temps, mais bon, voilà. Je suis d'accord.
Alors, Thomas Legrand.
Alors, il y a deux façons de voir, il y a la façon topographique. Si on prend le paysage politique comme une géographie, on dit bien le paysage politique. Alors oui, dans ces cas-là, en ce moment, la France insoumise est à l'extrême gauche classique, politique, c'est-à-dire lutte ouvrière, le NPA, ceux qui refusent de se dire dans le cadre de la République n'existent plus vraiment. Et donc, vous savez, mais ça c'est relatif et c'est pas très intéressant la topographie. Vous savez, il y a deux géographes qui, autour de 1850, ont décidé d'essayer de savoir où était le centre de la France. Alors ils ont fait des grands calculs très compliqués à partir des côtes et des frontières, et ils ont planté un bâton dans un champ du Puy-de-Dôme en disant « c'est ici le centre de la France ». C'était 1850. Et pof, 1860, on rachète la Savoie et le comté de Nice, et il fallait tout recommencer. Donc c'est relatif et ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
D'accord.
Et il y a plutôt la vision philosophique. Et dans la vision philosophique, moi je dirais qu'il ne faut pas confondre l'extrémisme et la radicalité. Mmh. Et dans le débat public en général, on place à l'extrême ceux qui ne se placent pas dans le champ républicain.
Donc c'est exclure la France insoumise, oui. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Sophia Chikirou, Jean-Luc Mélenchon, c'est les exclure de l'arc républicain.
C'est considérer que ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et le programme de la France insoumise est hors de l'arc républicain. Je pense que la France insoumise se rend infréquentable par le PS, par exemple. En ce moment, pour les municipales, il y a beaucoup de maires PS qui se représentent et qui n'ont pas du tout envie de gouverner. Et on les comprend parce que la façon de gouverner, c'est quand même...
Mais ça ne s'appelle pas de l'extrémisme.
Mais ça ne s'appelle pas de l'extrémisme. Et j'y reviendrai pour une raison philosophique que je pourrais développer un peu plus tard, si vous voulez, pour laisser parler Guillaume.
Moi, je pense qu'effectivement, le programme de la France insoumise n'est pas extrémiste en lui-même, dans la mesure où il respecte les institutions, où il est favorable au passage à une 6e République, ce qui peut tout à fait se concevoir. Après tout, on en a déjà eu 5. En revanche, je considère que le comportement de ces élus est un comportement extrémiste. Mmh. Et il l'est depuis longtemps. Je crois que c'est en 2018 que Jean-Luc Mélenchon, dans son blog, écrivait « La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine ». Pas le débat avec les médias, pas comme quand France Inter et le Figaro Magazine échange d'élan sur le pluralisme. Non, la haine. Le même Jean-Luc Mélenchon, qui, je le rappelle, parce que personne ne le dit, a été condamné de 3 mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende pour acte d'intimidation envers un magistrat. Rébellion et provocation. C'était après qu'un substitut du procureur ait tenté d'entrer dans les locaux de l'FI.
La République, c'est moi.
Voilà, la République, c'est moi. Je pense que quand on a ce genre de comportement...
Mais en
je
réalité,
pense que quand il y a...
vous rejoignez là les motifs invoqués par Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui a justifier sa décision par les motifs suivants, remise en cause très forte de l'autorité judiciaire et des médias, accusation systématique de la police, appel à la désobéissance civile, mais aussi refus de la discussion parlementaire et appel systématique à la censure. Donc en réalité, vous rejoignez à peu près les motifs qui ont précédé cette
décision. Absolument. Ce que je contestais tout à l'heure, c'était la légitimité du ministère de l'Intérieur à porter ce genre de jugement. Pas Laurent Nunez en tant que responsable politique, mais l'administration du ministère de l'Intérieur. J'ajouterai encore un argument, il y a un problème de rapport de la France insoumise à la race. Quand vous avez Rima Hassan, une des dirigeantes du parti, qui dit, c'était en Seine-Saint-Denis, pendant la campagne municipale il y a quelques jours, il faut élire ceux qui nous ressemblent, et elle ajoutait, c'est-à-dire des gens racisés. Imaginez un seul instant qu'un responsable du Rassemblement National dise « Il faut que la France ait des élus blancs, parce que c'est un pays à majorité blanche ». Ça vous choquerait probablement.
Vous faites bondir, justement, vous faites bondir Thomas Legrand, qui vous répond.
Non, justement, alors sur l'arc républicain au sens philosophique, si on considère que extrémiste, c'est être hors du champ philosophique de la République. La République, c'est pas la modération. Faut pas confondre l'arc républicain et le cercle de la raison. La République, elle est née dans la Révolution. La République, elle a eu un aspect violent, agressif.
Donc il y a une place pour la radicalité dans la République.
Pour la radicalité. La Commune était une tentative de République sociale. Elle a été
fusillait l'archevêque de Paris. Ça, je vous confirme que c'est une tentative violente.
La violence fait partie aussi de la République. La République, c'est aussi la libération de Paris qui s'est pas fait avec des fleurs. La République, elle s'est imposée comme ça. Et on peut être radical et républicain. Philosophiquement, ce qui différencie le Front National, le Rassemblement National, que je place hors des principes de la République.
Donc à l'extrême droite.
À l'extrême droite, alors que le Front National, le Rassemblement National, respecte évidemment le cadre républicain, les élections, etc. Mais c'est que il différencie, le Front National différencie les gens, la population, le peuple, pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils possèdent. Alors que la France Insoumise, les Insoumis différencient les gens pour ce qu'ils possèdent. Et ça, c'est ontologiquement et philosophiquement...
Mais vous n'avez pas écouté...
Attendez, alors sur ce que vous avez dit sur Jean-Luc Mélenchon, ce sont des attitudes extrémistes, ça, je suis d'accord, c'est des attitudes qui le rendent en tout cas infréquentable en ce moment de
Donc
la
c'est
part
une question de forme, mais pas une question de fond.
Mais je
c'est
pense
ce que
le programme, de la France Insoumise, le programme est un programme radical, mais qui n'est pas anti-républicain. On peut ne pas l'accepter, on peut considérer qu'économiquement il est suicidaire, ça doit être votre cas, j'imagine, mais il est dans le cadre, dans les clous de la République, alors que philosophiquement, je pense que l'extrême droite, le Rassemblement National, qui différencie les gens pour ce qu'ils sont, et donc il y a du racisme.
Et le quand vous parlez, rapport alors, de la France
Alors quand
insoumise.
Vous parlez du racisme de Rima oui, Hassan, voilà. par exemple, Rima Hassan, il ne faut pas confondre vouloir réparer ce que la République n'a pas fait, c'est-à-dire la République a continué à ségréguer avec des ghettos, on sait bien qu'il y a du racisme et de la ségrégation en France, en tout cas de la discrimination, elle veut le réparer par un racialisme qui, de mon point de vue, est assez inefficace, mais il ne faut pas confondre un antiracisme problématique avec le racisme. C'est quand même...
On a l'impression qu'on est chez les inconnus. Il y a les bons racistes et les mauvais racistes.
Mais non, c'est pas du racisme.
Mais si, c'est ce que vous venez de dire.
Mais c'est pas
mais
du racisme.
Bien sûr que si, que c'est du racisme.
Mais non,
c'est
vouloir la diversité, que... vouloir la diversité, c'est du racisme.
Mais vous ne voulez pas, on ne veut pas la diversité quand on dit il faut qu'on ait des élus qui nous ressemblent. C'est contraire. C'est, voyez-vous,
vous pensez
quand
que...
je vous écoute depuis quelques instants, mon cher Thomas, je me dis voilà pourquoi la gauche est à ce niveau-là dans le pays. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que vous venez de piétiner pendant plus d'une minute tous les principes de l'universalisme qui étaient ceux de la gauche jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand la même Rima Hassan explique que Ariel Veil, qui est un des maires de Parisiens, qui est sur la liste de socialistes, ne doit être disqualifié parce que, dit-elle, il est né en Palestine occupée.
Elle
ça veut dire qu'il est juif.
Elle a des propos...
ça ne vous pose pas de problème.
Mais si, ça me pose beaucoup de problèmes. Elle a des propos excessifs, elle a des propos extrémistes.
Voilà, mais c'est pas grave.
Si c'est grave, elle a des propos extrémistes.
Alors pourquoi dites-vous que la France Insoumise est moins raciste que le Rassemblement National.
Laissez répondre Thomas Legrand.
Parce que la France Insoumise différencie les gens pour ce qu'ils possèdent et pas pour ce qu'ils sont.
Mais pas du tout.
À part Rima Hassan, peut-être, dans ce cas-là.
Mais
si
vous avez...
Mais le programme du Front National, du Rassemblement National et le programme de la France Insoumise, on peut y adhérer ou les tester. En tout cas, philosophiquement, ils sont basés sur des bases qui sont totalement différentes.
Ah bah alors, je pose
inverse.
La question à Guillaume Roquette du Figaro. Est-ce que vous, par exemple, vous utilisez le terme extrême droite pour qualifier le Rassemblement National? Oui,
non,
ou non.
Je ne l'utilise plus. Je ne l'utilise
plus. Vous l'avez
plus.
Utilisé?
Oui, je l'aurais utilisé. Alors, j'étais pas journaliste politique à l'époque, mais je l'aurais utilisé quand j'entendais Jean-Marie Le Pen parler des Juifs. Mais depuis que le Marine Le Pen a exclu son défunt père de son parti, du parti qu'il avait créé, je pense qu'il a vraiment eu une rupture. Je pense aussi que, là, je rejoins Thomas, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une vie politique partout dans le monde qui est plus radicale.
Oui.
On n'y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis, en Argentine, au Japon. Et donc, je pense qu'il faut s'habituer à ça. C'est-à-dire que c'est de plus en plus âpre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas tracer des limites. Et moi, je considère que la France Insoumise a franchi ses limites.
Thomas Legrand, est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence? Est-ce que vous pensez, comme les Insoumis, que ça peut affaiblir la France Insoumise, c'est-à-dire la stigmatiser pendant qu'on banalise le Rassemblement National?
Non.
Ce qualificatif d'extrême gauche.
Il y a cette opération de décadrage. Effectivement, quand on cible le Front National la France Insoumise de cette façon, c'est pour préparer ce que Guillaume Roquette peut-être souhaite, c'est-à-dire l'union des droites et de l'extrême droite. Dans une future alliance. Mais ça, c'est autre chose. Mais stigmatiser ou qualifier, comme le fait le ministre de l'Intérieur, ou comme on peut le faire ici ou là, l'extrême droite d'extrême droite ou l'extrême gauche d'extrême gauche, c'est-à-dire mettre ce qualificatif extrémiste dans une période de désamour du peuple pour les élites, je pense que ça ne fait bouger aucune ligne. Et peut-être même des gens qui sont une majorité de Français, qui ne sont pas contents ou qui sont défiants envers le système, peuvent se retrouver dans une force politique qui est stigmatisé par ce même système.
Le fait d'utiliser ou de ne pas utiliser ces termes extrême droite, extrême gauche, concernant...
Ça veut dire que notre débat est un peu vain.
Le RN et... Et la France Insoumise, est-ce que ça qualifie plus celui qui parle que l'objet dont on parle? C'est-à-dire, est-ce que les journalistes de gauche se démasquent en refusant d'utiliser le terme extrême-gauche à propos de LFI? Est-ce que les journalistes de droite se démasquent en refusant d'utiliser le terme extrême-droite à propos du RN?
Oui, je pense qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est un petit peu l'apostrophe de mai 68, d'où parles-tu, camarade? Et donc, c'est vrai que, notamment, il y a des arrière-pensées en, quand on qualifie ou non d'extrémiste tel ou tel parti sur les alliances futures. Pense que l'une des réticences de la gauche, peut-être de Thomas, je ne sais pas, de qualifier LFI d'extrême-gauche, c'est de vouloir remettre en question à l'avance, ce qui sera probablement, parce que ça se finit toujours comme ça, l'alliance du Parti Socialiste avec LFI aux prochaines échéances électorales. Donc oui, effectivement,
je pense qu'il y a...
Écoutez, on verra, on vous réinviterait.
On verra. Guillaume Roquette, le mot de la conclusion.
Oui, oui, je suis d'accord, c'est une question de point de vue au sens littéral du terme. C'est-à-dire que on ne voit pas les bordures au même endroit, Guillaume et moi, parce que sans doute, on n'a pas tout à fait les mêmes sensibilités, et sur cette topographie politique dont je parlais, on n'est pas assis sur la même butte.
C'est bien pour ça qu'on vous a réunis dans ce studio,
Voyez,
messieurs.
Mais comme on n'est pas des politiques, on peut changer un peu d'avis.
On vous lit dans Libération, Guillaume Roquette, on vous lit dans Le Figaro. Merci beaucoup à tous les deux, Camille et Mbé, pour illuminer cette grande matinale.
Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Qu'en sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison. Un nouveau problème, un nouveau petit aimant s'installe à son tour dans l'appart, dans le salon. Je passe de temps en toi, de virage en virage, drôle de vie incertaine. Vol à l'étalage pour une belle paire d'Adidas, ça fait beaucoup trop de semaines. Qu'un nœud dans l'œsophage, jouer l'entourage, je crois que j'avais perdu la tête. Jamais, jamais dit.
Camille Mbé, la chanteuse belge, c'est son nouveau single. Ça ne s'appelle « Je ne l'ai jamais dit à personne » et c'est une confidence sur son adolescence. On attend son album cette année à Camille Mbé. Il est 9h46, le Mac de la Grande Matinale se poursuit avec Charline Vanhoenacker. Oui. Charline, les JO d'hiver de Milan Cortina battent son plein en Italie.
Oui. Déjà, félicitations à la France pour ses médailles depuis le début de la compétition.
Oui.
Ouais, même si quand on vient d'un pays avec des montagnes, Ça me semblait un petit peu avantagé. Et hier soir, oui, bah, bien sûr. Hier soir, Laurent danse sur glace pour Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. Mais bon, jusque-là, c'est sur du plat quand même. Hein. J'attends de voir ce qu'ils veulent sur une patinoire inclinée. Bon, vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver, Sonia ?
Oui.
Ah bah c'était formidable, hein, formidable. Sans drag queen, sans musique c'est de ça. Sauvage, avec des jolis drapeaux.
C'était plat.
Voilà, je profite que Daphné n'est pas en studio pour le dire. Et alors là, les gens savent s'habiller. Hein. C'est doudoune, move, bonnet. Là-bas, le chanteur n'était pas à poil, je veux dire. Alors à chaque Jeux Olympiques, on entend qu'ils seront les plus vertueux de l'histoire. Alors là, on va prendre un petit instant pour redéfinir cette notion parce que la piste de bobsleigh est tellement vertueuse qu'ils ont abattu 560 mélèzes centenaires pour la construire, sachant qu'il y a 300 licenciés de bobsleigh en Italie, ce qui fait, vraiment. Sonia, ça fait quasiment deux arbres centenaires abattus par licenciés. Vous n'êtes pas du tout concentré en fait. Vous êtes déjà en week-end, là.
Non, pas du tout.
Allez, Sonia, on n'est que deux,
je suis
là.
Je suis en calcul mental.
Allez, on n'est que deux. Dites-vous qu'on est un duo de patineuses artistiques. Imaginez Philippe Candeloro derrière la vitre qui fait des blagues salaces. Pendant ce temps,
ça ira mieux.
En France, on organise déjà les prochains JO d'hiver de 2030. Le comité d'organisation est déjà bien lancé. Ils foncent touchous vers la catastrophe. L'instance est en crise. Après trois départs de cadres en deux mois, il y a la directrice des opérations, le directeur de la communication, le président du comité des rémunérations se sont barrés successivement. On se croirait à France Inter, mais sur des skis. Ah, vous voyez, Sonia, là, je viens de tenter un triple axel, et puis on verra la note du jury ensuite. Alors, j'ai l'impression d'avoir passé ma semaine à parler de gens qui démissionnent, moi. Si ça continue au comité d'organisation des JO 2030, ils vont être encore moins nombreux que nous dans ce studio. Sonia va finir par faire une belote, en fait. Alors, au comité des JO français, ils s'embrouillent vraiment pour tout. Le site de patinage de vitesse, la commune pour les épreuves de ski alpin, la construction d'une nouvelle patinoire, la couleur des canons à neige. Donc ça, c'est une blague, hein, Sonia, attention, hein, soyez concentrés. En 2030, quand les athlètes vont arriver en France, on va leur demander de patienter à l'aéroport le temps qu'on décide où ils doivent poser leurs bagages. C'est vous dire si le chemin paraît aussi long et verglacé que cette chronique, vraiment, qui me rappelle la fois où j'avais perdu le groupe au milieu d'une piste à bosse. Mais Sonia, je sais que vous ne m'abandonnerez pas, que vous m'attendez en bas avec un bon vin chaud, et ça me réconforte. Au fait, Gérard Holtz a rejoint la liste de Christian Estrosi à Nice en vue de la préparation de ses JO. C'est, je vous jure, ils l'ont dit hier au journal d'Antenne 2. Non mais quelle idée d'avoir voulu organiser ces JO d'hiver, hein, alors qu'on était resté sur une bonne impression avec ceux de Paris, c'est vraiment dommage. Déjà qu'on savait qu'il n'y aurait pas de neige maintenant, il n'y aura même pas de comité d'organisation. Enfin si, on a un comité de désorganisation.
Ça c'est moi.
Non, c'est pas vous, je vous fais un signe pour dire c'est fini. C'est fini, mon calvaire est terminé, celui des auditeurs, ils aussi.
Pas du tout, et voilà. C'est France Inter sur des skis, ça va me faire la journée. Donc Charline, je vous retrouve, oui. Moi, samedi, à l'antenne, à 19h15, dans Bistroscopie, ah. Avec Jean-Pierre Darroussin. Très bonne
vous
idée
serez
de
là,
voir.
Merci.
Invité Darroussin, très bonne idée.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h50, nous sommes dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Annière Anéi. Elle est mannequin, elle est actrice. Et chez elle, ces deux mots ne parlent ni de rêve, ni de glamour, mais de choix et de courage. Elle a grandi entre le Soudan du Sud et le Kenya. Études de pharmacie, une bourse, une trajectoire sérieuse. Et puis un jour, elle prend un risque immense. Partir seule dans un pays dont elle ne connaît pas la langue, pour un métier qu'elle ne connaît pas, avec une seule idée en tête, aider sa famille. Aujourd'hui, elle défile pour les plus grandes maisons de mode et elle joue au cinéma pour son premier rôle dans Couture d'Alice Vinocourt, où elle donne la réplique à Angelina Jolie. Bonjour Annière Anéi, bienvenue sur France Inter.
Good morning.
Bonjour. Comment ça va ce matin ?
I'm very well, actually.
Ça va
Thank
très
you
bien.
So much for having me.
Merci de me recevoir. Je suis très heureuse de vous recevoir et de vous présenter aux auditeurs de France Inter ce matin. Je vais raconter un peu l'histoire puisque vous êtes devenue mannequin en 2022. Et très vite, vous êtes ce qu'on appelle dans le métier une new face, un nouveau visage très regardé lors des Fashion Week. Votre premier grand show, c'était chez Versace. Paraît-il, vous auriez été repérée par la fabuleuse Donatella Versace elle-même. Pour les auditeurs de France Inter, forcément, qui ne vous voient pas, ceux qui ne vous suivent pas en ce moment même sur une vidéo, comment vous vous décririez ?
How would I describe myself?
Comment me décrire ?
I'd say I dare to live.
Je dirais j'ose vivre. Voilà. Alors ça, c'est magnifique. Et moi, j'allais vous demander surtout, quelle taille faites-vous? Parce que vous êtes rentrée gigantesque dans ce studio, et c'est rare qu'on soit plus grande que moi. Parce que je suis beaucoup trop grande.
Well, I'm 178 centimeters tall.
Et bien, je fais 1m78.
Alors, au départ, je raconte si vous vouliez être médecin ou présidente du Soudan du Sud. Vous choisissez finalement des études de pharmacie, une voie solide. Et puis, on vous repère pour devenir mannequin. On vient vous le proposer à plusieurs reprises, mais c'est votre père, a priori, qui était opposé à cette idée. Qu'est-ce qui vous a donné la force de désobéir et de vous lancer quand même ?
Je savais que ça pouvait changer ma vie, parce que ça me permettrait de voyager énormément, de gagner beaucoup d'argent. Alors j'ai décidé d'essayer et de voir où ça mènerait. Et je savais que ma famille m'emboîterait le pas avec un peu de retard.
Vous obtenez toujours ce que vous voulez. Alors lorsque vous avez passé ce casting de cinéma, au milieu de, paraît-il, près de 300 jeunes femmes qui voulaient décrocher ce rôle dans ce film Couture, cette fois-ci, vos parents étaient au courant d'ailleurs que vous alliez passer ce casting?
Non,
pas du tout.
Not at all, because it's an opportunity that came.
Pas du tout, parce que ça s'est présenté, c'était vraiment sorti de nulle part, cette opportunité. C'était pendant la Fashion Week. Mon agent m'a dit, il y a un scénario, je pense qu'il faudrait que tu le lises. J'ai rappelé mon agente et j'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais tourner tout un film en français? Et elle m'a dit, bah, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi, Anya. D'accord, je vais essayer. Alors je suis allée, j'ai rencontré Alice. Et je me souviens qu'elle m'a demandé, mais pourquoi tu es partie? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir exactement? Et je lui ai répondu que j'aimais prendre des risques. Je riais, mais elle m'a dit, je reviens vers toi dans une semaine. En fait, elle m'a rappelé au bout de 3 jours. Et c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Moi non plus, je n'ai pas compris pourquoi. Et ma famille, elle l'a appris plus tard.
Alors moi, j'ai compris pourquoi vous avez eu le casting en voyant le film. Ce film s'appelle Couture. Il se déroule pendant la Fashion Week à Paris et il raconte la rencontre finalement de 3 femmes, une réalisatrice, une maquilleuse et une jeune mannequin, c'est vous, qui découvre l'envers du décor de la mode, un film qui se joue juste à côté des flashs et qui montre la solitude et la pression de ce milieu. Bande annonce.
Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week ?
Oui, je me sens très chanceuse.
Action !
Vous avez misé sur moi ?
Ouais, bien sûr.
Oh, you're going to be in a movie.
I don't know if this is really what I want to do.
Ne regarde pas, suis ma main.
Vous êtes d'un naturel et d'une vérité confondante dans ce film. Vous êtes parfaitement à votre place. Et en même temps, on sait maintenant que la réalisatrice, elle s'est inspirée de votre propre parcours pour écrire ce personnage. Les études en pharmacie, le père qui s'oppose, une famille qu'on laisse loin au pays, apprendre les codes d'un métier hyper loin aussi de là d'où on vient. Comment on se prépare à jouer sa propre vie ?
Jeune, je n'avais pas du tout d'expérience du cinéma. Donc je me suis dit que j'allais essayer, mais surtout écouter ce qu'Alice allait me dire. On a réécrit vraiment le scénario ensemble pour qu'elle m'explique ce qu'elle voulait du personnage d'Ada, ce qu'elle attendait. J'ai eu un coach qui m'a aidée avec le français.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui sont vraies dans ce film. Entre autres, il y a cette scène où vous discutez avec d'autres mannequins et vous racontez que pendant vos études de pharmacie, vous avez étudié sur des cadavres en cours d'anatomie. C'est quelque chose que vous avez vraiment vécu ?
Oui, absolument.
Ah ouais.
You know what's funnier?
Ce qui est encore plus drôle, c'est que mon cadavre avait les ongles vernis de rouge.
C'est bien ce genre de détail. Qu'est-ce que ça représentait avant la mode pour vous quand vous étiez petite ?
It's not something that I thought much about.
C'est quelque chose auquel je pensais beaucoup.
L'une des particularités d'un métier de mannequin, c'est d'apprendre à marcher. Ça paraît comme ça facile, mais ça ne l'est pas du tout. Comment vous avez appris à marcher ? Et pour le film, comment vous avez appris à démarcher ?
Well, to learn how to walk as a model.
Bien, apprendre à marcher en tant que mannequin, il faut tout simplement porter des talons tous les jours. Dans la rue et mon podium. Et pour désapprendre, je sais qu'avec Alice,
the first scenes when we're doing it on the
street, je me souviens que dans la première scène où on est dans la rue, elle n'arrêtait pas de me dire « Attends, tu marches comme un mannequin, marche comme une personne normale. Est-ce que tu peux marcher comme moi ?» Ça a été vraiment le plus difficile, mais on y est arrivé.
Dans le film, la guerre plane aussi, notamment dans vos échanges avec une autre mannequin qui deviendra une amie, qui est ukrainienne. Comment on vit avec cette distance permanente avec son pays quand on construit sa vie ailleurs? Comment vous le vivez? Je sais que vous êtes extrêmement engagée, entre autres on le voit sur vos réseaux sociaux.
Ma famille est arrivée au Kenya en 1999. Et moi, je suis née un an après. Donc, en fait, je suis née au Kenya. Mais je suis très en lien avec mon pays. On l'est tous dans ma famille. Et il y a beaucoup de Sud-Soudanais que je connais qui ont toujours ce lien. Ils sont dispersés partout dans le monde. Nous sommes réfugiés dans beaucoup de pays. C'est difficile de ne pas avoir cette idée d'un chez-soi, mais je sais qu'avec ce que je fais, j'ai l'occasion, l'opportunité de m'adresser à des jeunes femmes, à des jeunes hommes, et d'ouvrir des portes pour d'autres. Et c'est comme ça que je peux contribuer et aider mon pays. J'espère devenir quelque chose ou quelqu'un qui sera plus grand pour pouvoir rendre justement à mon pays. C'est ça mon objectif, pour changer la vie là-bas et que rentrer ne soit pas associé à la douleur ou au conflit, mais simplement à l'idée de rentrer chez soi.
Vous n'aviez pas prévu d'être mannequin, vous n'aviez pas prévu d'être actrice. En revanche, vous avez un rêve, c'est de construire des écoles au Soudan.
Yes, absolutely. Oui, absolument. I want to build schools and hospitals
there. Je voulais construire des écoles, des hôpitaux là-bas.
I think school is very important because one of the reasons why my dad wasn't very happy with
l'une des raisons pour lesquelles mon père n'était pas très heureux que je me lance dans le mannequinat, c'est parce que le seul moyen de sortir de la guerre et de la souffrance pour lui, c'était justement de s'éduquer. Et toutes les raisons qui nous ont poussés à rester au Kenya, justement, c'était aussi ça. C'était pour avoir accès à l'éducation. C'était toujours la première priorité. Et donc, je pense qu'apporter les écoles, l'éducation et aussi les hôpitaux dans mon pays d'origine, c'est très important pour la jeune génération et puis parce que les hôpitaux, on en a besoin.
On entend Erykah Badu, On and On, fabuleux hit évidemment des années 90. C'est une musique qui vous accompagne souvent et qui vous fait du bien. Mais avant de se quitter, est-ce que vous auriez une dédicace ce matin, peut-être au micro de France Inter?
Je crois que je veux dédier ce moment à Alice. À Alice Vinocourt. Je lui suis très reconnaissante de l'opportunité qu'elle m'a offerte de faire ce film. Et de m'offrir l'occasion de raconter mon histoire et celle de tant de femmes africaines. C'est quelque chose qui sera transmis de génération en génération, les gens le verront et ça touchera quelqu'un quelque part. J'espère que les spectateurs auront de l'empathie pour mon personnage et apprendront à prendre des risques eux aussi.
To be brave,
et à être courageux et à prendre les rênes de leur vie.
Elle s'appelle Anière Anéi. Elle est à suivre absolument. Et puis vous pouvez la retrouver évidemment dans le film Couture qui sort le 18 février en salle. Merci.
Merci beaucoup.